Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Je ne sais pas si Dieu le fait un petit peu exprès pour embêter les gens bien-pensants, ou se croyant bien-pensants, mais il faut bien reconnaître qu'il semble aimer souvent prendre le contre-pied des attentes humaines. Ceci étant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, par le ministère qu'il a eu, il a indéniablement accompli les œuvres que Dieu avait prévues pour lui, selon une volonté et sagesse divine, en prophète de Dieu qu'il était. Un prophète qui a gêné les élites, la famille du roi Hérode, les chefs religieux en particulier. Comme le dit Jésus dans ce verset, Jean était plutôt un ascète, s'abstenant de diverses choses, jeûnant régulièrement, et on le lui reprochait. Jésus lui-même, de façon parfaite pour ce qu'il concerne, a bien sûr accompli les œuvres que Dieu avait prévues pour lui. Et pour cause, lui était carrément la sagesse de Dieu personnifiée. Dieu fait homme. Mais lui, au contraire de Jean-Baptiste, c'est le fait qu'il mange et boit, qu'il se réjouisse souvent autour d'une table, qui lui était reproché. Et en plus, il mangeait et buvait en bien mauvaise compagnie. Faut-il plutôt jeûner ou plutôt déjeuner ? Rassurez-vous, apparemment, quoi que vous décidiez, ça fera toujours ronchonner quelqu'un. Faut-il plutôt jeûner ou plutôt déjeuner ? Question un peu sous forme de butade, mais j'espère aussi interpellante. Je ne sais pas si c'est un questionnement que vous avez ou que vous avez eu. Mais comme on a plusieurs fois réfléchi à la notion de prière, notamment dans plusieurs prédications l'année dernière, on m'a aussi demandé de proposer une réflexion sur le sujet du jeûne, qui est des fois lié. J'avoue, je ne suis pas un spécialiste, et même que je n'y connais pas grand-chose, parce qu'à ce jour, je ne pratique pas vraiment le jeûne, et donc je ne sais pas si je suis la bonne personne pour en parler. Mais bon, on va essayer. Du coup, je me suis posé des questions. Un chrétien ? Les chrétiens, le pasteur, l'Église, doivent-ils avoir une position particulière en la matière ? Évidemment qu'elle est plus importante que qu'en dit la Bible. Que nous en dit la Bible ? Dois-je, devons-nous, devrions-nous jeûner ? Parfois, occasionnellement, régulièrement, souvent ? Fréquemment ? Sinon, pourquoi ? Et si oui, pourquoi ? Et je vous propose un premier volet ce matin, plutôt à regarder le contenu biblique et les côtés mis en garde, plutôt négatifs du sujet, en espérant ne pas trop laisser personne sur sa faim, si je peux me permettre ce jeu de mots, évidemment facile. Et il nous faudra attendre 3 semaines pour avoir la suite, pour la deuxième partie, parce que je ne suis pas là les 2 prochains dimanches, où on regarde plus les aspects effectivement positifs, mis en avant, des pratiques qui sont montré dans la Bible. Toujours du temps, ça, on ne sait jamais si ça a pris la commande ou bien pas. Est en train de jeûner. Qu'en dit la Bible ? Comme point de départ, je propose un survol de l'Ancien Testament un peu, et je crois que nous pouvons noter que dans les 5 premiers livres de la Bible, dans ce qu'on appelle le Pentateuque, il n'y a pas de mot de la famille du jeûne ou d'abstinence. Il y a néanmoins cet exceptionnel événement pour Moïse au mont Sinaï que donc j'ai mis les versets là dans Exode 34. Moïse resta là avec l'Éternel, donc il était sur le mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, il ne mangea rien, il ne but rien. Il écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Jeûner, comme le souligne la définition du mot, c'est certes se priver volontairement de nourriture, mais aussi le fait d'en être privé. Et en ce sens, je rejoins plutôt ce que dit le nouveau dictionnaire biblique sur le sujet du jeûne, qui classe ce jeûne de Moïse comme un jeûne d'exception, dû plutôt à une impossibilité pratique de se procurer de la nourriture ou de la boisson. Jeûne assurément couplé, en tout cas, à des extraordinaires miracles. Déjà, la présence de Dieu était un miracle, et le fait de survivre, malgré cette longue privation qui serait autrement mortelle pour tout être humain, en particulier pour le fait de ne pas boire pendant 40 jours, vous pouvez essayer, mais ce n'est pas recommandé. D'une certaine façon, je pense que l'on peut dire que ce jeûne était quelque part involontaire, même si Moïse a effectivement fait la volonté de Dieu. En tout cas, c'était un jeûne non prescrit. Et de fait, il n'y a pas vraiment de commandement explicite dans la loi de l'Ancien Testament concernant le jeûne. Mais comme dans la culture israélite de l'époque, le langage se fait aussi souvent de façon indirecte, par circonlocution, comme on dit. Un certain nombre de commentateurs lisent cependant les lignes que l'expression... Non, ils lisent entre les lignes plutôt que l'expression « vous humilierez vos âmes » ou « vous vous humilierez », eux le comprennent comme pouvant impliquer un commandement de jeûner. Ces versets concernent tous l'institution de ce qu'on appelle le jour des expiations, un jour solennel de repentance pour le pardon des péchés que le peuple devait suivre une fois par an. C'est donc possible, mais ce n'est pas certain. Alors le plus tardif, au psaume 35, dit et précise « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Et pour moi, ça laisse à penser qu'on peut humilier son âme autrement que par le jeûne. Et comme piste de réflexion, moi je me suis posé la question et je vous laisserai réfléchir là-dessus. Je me suis dit, mais si le jour des expiations imposait un jeûne obligatoire, je me demande, pendant les 38 ans de désert qui ont suivi pour Israël, est-ce que Dieu donnait la manne ce jour-là pour tester l'obéissance des Israélites à ne pas manger, ou est-ce qu'il n'en donnait pas pour les forcer à respecter le commandement? Je me suis dit, dans les deux cas de figure, ça ne colle pas trop avec ma compréhension de qui est Dieu et de la façon dont il fonctionne. Et donc, personnellement, mais vous pouvez avoir un avis contraire, j'aurais plutôt sens à me dire que le respect de ce jour des expiations n'est pas couplé avec une obligation de jeûner ce jour-là. En tout cas, l'Écriture est silencieuse à ce sujet. Et c'est ça qui ne rend pas évident certains sujets, hein, quand c'est sujet à interprétation, parce qu'il y a nécessairement une part de subjectivité. On peut se tromper, on peut arriver à lire ce qu'on a envie de lire, en fait. On peut exagérer ou minimiser. Et donc, je laisse donc chacun se faire une opinion à partir de ça. Prescription en question. La 3, s'il te plaît. Par contre, ce qui est sûr, c'est que par la suite, l'Ancien Testament nous relate des jeûnes décidés, initiatives humaines, souvent collectives, mais également individuelles, pour soi-même ou imposées aux autres. Alors, pas la peine de noter toutes les références, hein, comme je vous envoie les notes, sauf ceux qui, peut-être, si vous n'avez pas... Si je n'ai pas votre adresse email, mais vous pouvez me la donner pour, si vous les souhaitez. La première, c'est donc après le Pentateuque, hein, ce que j'ai dit dans le Pentateuque, dans les 5 premières lettres de la Bible, il n'y a pas de notion de jeûne. Enfin, le mot jeûne n'y apparaît pas, l'abstinence n'y apparaît pas. La première fois, c'est dans le livre des Juges. Israël jeûne et pleure devant Dieu suite à de terribles batailles fratricides qu'il y a eu entre les différentes tribus, qui a entraîné la mort de nombreuses personnes et le peuple s'en désole. Puis dans les livres de Samuel, le peuple jeûne encore après avoir reconnu avoir péché contre l'Éternel, ou pour le deuil du roi Saül. Saül, d'ailleurs, qui avait aussi stupidement décrété un jeûne collectif lors d'une bataille contre les Philistins, un jeûne que son fils Jonathan enfreindra par ignorance, d'ailleurs. Puis il y a eu le roi David, qui jeûnera après avoir reconnu son péché d'adultère, et de meurtre pour demander la grâce de Dieu pour la survie du fils illégitime qu'il avait eu avec Bathsheba et qui est alors mourant. Prière que Dieu n'a d'ailleurs pas exaucée. C'est dans 2 Samuel. Il y a aussi trois psaumes dits de David, les psaumes 35, 69 et 109, qui évoquent la mention d'une pratique du jeûne, pratique semble-t-il régulière, de l'auteur du psaume en tout cas. La terrible reine Jézabel décrétera un jeûne aussi pour profiter de l'occasion pour faire tuer son voisin Naboth. Ça, c'est dans le livre des rois. Peu après, son mari, le terrible roi Akab, s'humiliera sincèrement et jeûnera lui aussi. Et peut-être que cela nous étonne, mais Dieu fera grâce à ce méchant et l'épargnera. Josaphat, roi de Juda, cherchant l'Éternel, décrétera aussi un jeûne collectif dans le livre des Chroniques. Des mentions, donc, pas si nombreuses que ça, parce que toute cette période-là, ça couvre une période de 600 ans quand même. Et il y a peut-être quoi ? Je ne sais pas compter. Allez. Cette mention d'un jeûne collectif ou individuel pendant ces 600 ans. Du positif, du négatif aussi, si on peut évaluer les choses ainsi. Du sincère et de l'hypocrisie. La pratique est en fait sans doute beaucoup plus courante que le nombre de récits ne le laisse paraître. Et en tout cas, elle est assurément renforcée à l'époque de l'exil à Babylone et au retour d'exil. Et on le voit clairement là dans les livres de Daniel, d'Esther, d'Esdras, de Néhémie, où la mention des jeûnes se multiplie. Jeûnes volontaires, là encore individuels ou collectifs, pour pleurer la misère du peuple, pour demander pardon, ou pour intercéder, ou demander la faveur ou la direction de Dieu. Là, dans ces jeûnes-là, on voit qu'il y avait une sincère volonté de se prosterner devant Dieu, de s'attendre à lui. Et le jeûne pouvait clairement être un outil pour cela. Joël, le prophète Joël, semble être la seule exception dans tout l'Ancien Testament où il semble mentionner que le jeûne vient de parole de l'Éternel. Mais le problème n'est en tout cas pas un problème de fréquence ou un problème de nombre de personnes qui se mettraient à jeûner, mais bel et bien, et avant tout, vous le savez sans aucun doute, un problème de sincérité, ou à l'inverse d'hypocrisie. Et il y a une condamnation en ce sens dans le livre du prophète Jérémie, mais c'est surtout Ésaïe, et on va lire une partie du chapitre 58 d'Ésaïe, qui est sans doute le plus explicite à ce sujet, le plus accusateur. Donc Ésaïe, en moins 700 avant Jésus-Christ, et je propose donc d'en lire quelques versets d'Ésaïe 58, j'essaye. Non, c'est la 4. Ésaïe 58, à partir du verset 1. Donc ça, c'est Dieu qui commande à Ésaïe de faire ça. « Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du cor. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob, leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ? Ça, ce sont quelques-unes des plaintes du peuple. Et voici la réponse de Dieu dans la diapo suivante. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès, en querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? On peut se prosterner, pour reprendre les mots de la présidence tout à l'heure, on peut se prosterner, mais sans que le cœur y soit. Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui que l'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Ça, c'est le jeûne qui plaît à l'Éternel. Alors comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Ce n'est pas un problème de pratique. Du fait de pratiquer le jeûne, c'est un problème de cœur. La pratique du jeûne est devenue habitude, religiosité. En jeûnant, Israël croyait amadouer Dieu. Croyait peut-être pouvoir lui forcer la main. Ouais, Dieu serait obligé d'agir en notre faveur du fait de notre jeûne. On se prive de manger pour lui quand même. C'était bien là le problème. Encore une sorte de fétichisme, comme déjà évoqué dans la première partie du culte, et qui considère le jeûne comme une œuvre méritoire. Quelque chose que l'on peut brandir devant Dieu en disant « Regarde, on a fait ça pour toi, tu dois nous répondre, tu dois nous exaucer », pour reprendre les mots d'Ésaïe. Mais Dieu se moque, Dieu s'en moque. Le respect religieux ne peut obliger Dieu. Ce n'est que tradition humaine. Dieu attend autre chose de nous. En fait, retenons qu'aucun jeûne n'est utile à Dieu. Aucun. On l'a rappelé semaine dernière pour un autre sujet. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Il est autosuffisant. On ne peut rien lui apporter. Par contre, certains jeûnes peuvent certainement nous être utiles à nous. Et Dieu peut bien sûr approuver et y prendre plaisir. Mais quelle motivation au jeûne ? Quelle intention à mon jeûne ? Croire que Dieu répondra plus facilement ? Je fais ça pour lui. Il y a ainsi des jeûnes qui plaisent à Dieu et d'autres qui ne lui plaisent pas. Et comme le montre bien ce passage, le jeûne, ce n'est pas nécessairement simplement se priver de manger ou de boire quelque temps. On le voit que le concept est beaucoup plus vaste, plus riche, selon le point de vue de Dieu en tout cas. Et on y reviendra la prochaine fois, cet aspect-là. Quelle motivation, quelle intention à mon jeûne ? Religion, tradition, c'est rapidement devenu le problème pour Israël. La pratique, la forme, a remplacé le fond et l'intention. La disposition du cœur prime, pourtant, doit primer avant tout. Et certainement un point de vigilance particulier pour nous aussi. Point de vigilance pour nous aussi, en cela comme en toute autre chose d'ailleurs. Et dans les évangiles... Dans les évangiles, on retrouve beaucoup la même chose. Matthieu, chapitre 6, verset 16. « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret, te le rendra. Extrait qu'on connaît du Sermon sur la montagne, passage où Jésus aborde la façon de pratiquer certaines choses, comme la prière, l'aumône ou le jeûne, qui étaient les trois piliers de la piété juive de son époque. Pas de problème de particulier de Jésus avec le principe du jeûne. Mais cela rejoint notre problématique de la disposition du cœur, dénonciation forte de toute pratique ostentatoire. Si c'est pour épater la galerie, comme on dit, si c'est pour paraître très spirituel aux yeux des autres, si c'est pour étaler au grand jour ma piété, je suis à côté de la plaque. Et c'est pas la peine. Même question qu'il y a quelques instants. Quelle motivation? Quelle intention a mon jeûne? Je ne pense pas qu'il faille déduire de ces versets qu'il ne faudrait exclusivement pratiquer le jeûne que seul, ou de façon secrète. On le verra aussi la prochaine fois avec la pratique de l'Église primitive. Mais il y a assurément là une autre facette du questionnement nécessaire. C'est pour le regard de Dieu ou pour le regard des hommes que je le fais? Et ça peut se décliner pour tout ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas d'exclusivité sur le jeûne. Je réessaye, Pedro. Vous me direz sans doute que Jésus a au moins jeûné au tout début de son ministère, après son baptême, comme le rapporte Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Et c'est exact. Il y a là un parallèle évident, divinement voulu, avec l'expérience de Moïse évoquée tout à l'heure. Effectivement, Jésus a jeûné. On peut dire volontairement, puisque la volonté de Jésus a toujours été de faire et de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais je rejoins encore là le nouveau dictionnaire biblique qui classe aussi ce jeûne de Jésus au désert comme un jeûne d'exception, où Jésus fut privé de nourriture et de boisson, 40 jours, comme Moïse au Sinaï, 40 jours, comme Élie sur le chemin du mont Horeb aussi, on a un roi. C'était un choix divin. L'Esprit l'a emmené au désert, dit le passage, et le diable l'a éprouvé. Et là encore, il y a eu miracle divin permettant de survivre, malgré cette longue privation humainement impossible, et parfait accomplissement de plan de Dieu dans son humanité. Plan de Dieu, de Jésus dans son humanité. Bref, exception donc, à mon avis. Jésus jeûnait-il par ailleurs? Bonne interrogation. Certainement, ou plutôt, non, pardon, contrairement à tout être humain, il n'avait en tout cas pas besoin personnellement de s'humilier, d'humilier son âme. Et en y réfléchissant, comme il n'avait pas besoin de se faire baptiser non plus, pour la repentance de ses péchés, et qu'il l'a fait quand même, qu'il allait demander à Jean-Baptiste de se faire baptiser. La question reste ouverte et je laisserai chacun aussi se faire une opinion personnelle. Ce qui est sûr, c'est que cette question du jeûne a souvent été une occasion de clash avec Jésus, avec les pharisiens. Et on le voit notamment dans Marc 2, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. On vient lui dire, donc on vient dire à Jésus, « Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas ?» Alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent. Jésus répondit, « Les amis du marié peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. » Aussi longtemps qu'ils ont le mari avec eux, ils ne peuvent jeûner. Et dans le texte parallèle de Matthieu 9, ce dernier verset dit avec un regard inverse, « Les jours viendront où le marié sera enlevé, alors ils jeûneront. » Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas? De manière polie ou hypocrite d'accuser Jésus de ne pas lui-même jeûner. Les disciples font ce que le maître demande. En tout cas, de ne pas visiblement jeûner. Et c'est vrai que les évangiles ne relatent aussi aucun épisode pendant le ministère de Jésus, en tout cas à partir du moment où il a eu des disciples, aucun moment où il aurait jeûné. Jésus jeûnait-il ? Peut-être l'a-t-il fait, mais en tout cas, ce n'est pas mentionné. Et la réponse qu'il donne dans ce dernier passage que nous venons de lire tendrait plutôt à faire penser le contraire. Ce qui est certain, c'est que Jésus, en tout cas, a toujours pleinement et parfaitement accompli toute la loi divine donnée à Moïse. Je ne reviens pas sur les réflexions précédentes qu'on a faites concernant le jeûne dans la loi. Jésus était, de fait, venu accomplir la loi. Mais ici encore, nous devons souligner que cette polémique n'est encore pas un problème de respect de la loi, mais toujours et encore un problème de respect de la tradition, respect de la tradition juive. C'est parce que Jésus ne respecte pas toute la tradition des anciens qui fait que les religieux le considèrent plutôt comme un mauvais juif, qui ne peut donc pas être envoyé par Dieu. Erreur de perspective de leur part, bien sûr. Les Juifs avaient en effet, il y a quelques siècles, décidé de jeûnes à faire à certaines époques de l'année, notamment pour commémorer diverses tragédies historiques en lien avec l'histoire de Jérusalem ou du Temple. Et on trouve en particulier ça dans le livre de Zacharie. Donc ils préconisaient plusieurs jeûnes annuels, obligatoires pour tout bon Juif qui se respecte, et aussi pour tout Juif qui se respecte, tout vrai bon Juif donc, tout vrai bon Juif religieux. Il recommandait, il demandait la pratique de jeûne hebdomadaire. Et c'est pour cela que Jésus raconta une parabole où il met en scène un pharisien qui énumère ses accomplissements religieux dans une prière en disant, entre autres mérites, « Je jeûne deux fois la semaine. » C'est dans Luc 18. La tradition humaine a régulièrement cherché à compléter, à combler ce qui est parfois perçu comme des trous dans la loi divine, à expliquer, voire à imposer la bonne compréhension de la loi divine et diverses choses de ce style, à établir ce qui plaît à Dieu ou pas. L'intention de départ n'est pas toujours mauvaise, mais qu'est-ce qui fait autorité quand il y a conflit ? Quand il y a légalisme, religiosité, quand la tradition, s'attachant trop à la lettre, a perdu l'esprit de la loi ? Sujet intéressant, sujet important. Et hasard du calendrier, on a vu ça il y a 10 jours dans la dernière étude biblique qu'on a faite sur une autre parabole où il y avait aussi un conflit. Jésus ne respectait pas la tradition des anciens et il respectait la loi par contre. La tradition des hommes n'est pas commandement de Dieu. Même si cette tradition n'est pas nécessairement mauvaise, c'est un autre débat. En tout cas, il y a souvent eu conflit avec Jésus sur ce sujet-là. Ah, la tradition. Ça sera mon dernier point pour aujourd'hui. Assez rapidement, dans l'Église primitive, en fait, après l'éloge de la souffrance à la suite des martyrs qu'il y a eu lors des persécutions des 2e et 3e siècles, il y a eu ensuite, au cours des 3e et 4e siècles, tout un élan vers l'ascétisme, vers la promotion de l'austérité. Ermite, anachorète, alors, a priori c'est juste un synonyme de ermite, si le dictionnaire ne m'a pas dit de bêtises, le nombre de chrétiens qui ont décidé de faire ce choix de vie, de se mettre à l'écart de la société, de vivre seul, essentiellement une vie de prière et de jeûne, ça s'est multiplié. Sont apparues aussi les premières communautés, appelées des cénobites. J'ai pas mis le nom. Des gens qui, eux, ont décidé de se mettre un peu à part, aussi essentiellement pour une vie de jeûne, de prière et de service de Dieu. Mais plutôt en communauté, façon les prémices de la vie monastique. Et je lis quelques citations à ce sujet qui disent « L'ascète transforme son corps en une offrande, paye de sa personne. » Un autre commentaire dit que derrière l'éloge chrétien du jeûne, moyen d'apaiser le désir, de purifier le corps et de promouvoir l'esprit, peut être décelée l'influence d'une pensée néo-platonicienne, donc Platon qui était un philosophe grec, d'autres en parleront mieux que moi, et ça exprimait un désir d'échapper au corps qui tire sans cesse l'esprit vers le bas. C'était la pensée de l'époque, de ces siècles-là, qui est devenue prédominante. Jeûne et prière comme idéal de vie. Et beaucoup ont embrassé ce choix-là. Pourquoi pas ? Le principe, moi, ne me gêne pas. Mais ce choix est tout à fait possible, et effectivement une tradition humaine. Et une tradition humaine qui va jusqu'à influencer la Bible. En tout cas, influencer les manuscrits de la Bible. Un peu compliqué peut-être d'expliquer tout en détail, mais comme vous le savez, les originaux des livres de la Bible ont disparu avec le temps. On ne les a pas. Et on n'a que des manuscrits qui sont des copies, de copies, de copies, de copies, de copies des originaux. Copies dans lesquelles il peut y avoir, de fait, quand on les compare, des différences mineures ou majeures, des changements ou des déplacements d'une lettre, d'un mot, d'une phrase, etc. Des oublis, des ajouts, des doublons, des erreurs de copiste. Parce qu'ils ne mettaient pas juste sur la photocopieuse et bzz, bzz, bzz. Non. Il y avait des gars qui passaient leur vie à recopier, à réécrire, à refaire des manuscrits. Des fois, des modifications délibérées du texte pour l'expliciter, pour corriger ce qui ne plaît pas. Un commentaire dans la marge qui, au fil du temps, devient partie intégrante du texte, etc., etc. Il y a de tout, plein de cas de figure. Bref, en gros, grâce aux progrès récents de l'informatique, les spécialistes peuvent désormais comparer facilement et de façon assez fiable les milliers de manuscrits disponibles. Et il y en a effectivement des milliers, écrits entre le IIe siècle après Jésus-Christ. Ce sont les plus anciens témoins qu'on en ait à ce jour, les écrits des années 100 et quelques. Et jusqu'au XIVe siècle environ, qui sont les plus récents qu'ils considèrent en général. Tous sont répertoriés, et quand on en retrouve encore dans les découvertes archéologiques ou au fond d'une bibliothèque, on les rajoute dans les bases de données internationales. Certains écrits sont relativement complets, d'autres souvent fragmentaires, abîmés ou en bon état. Certains sont des morceaux de Bible, d'autres sont plutôt des citations de versets dans les livres qui ont pu être écrits à l'époque. Bref, tout cela est régulièrement mis à jour, compilé, compacté, résumé, étudié, tout ce que vous voulez, et résumé dans des livres comme ça, où il y a tout le Nouveau Testament en grec qui est compilé, et pour chaque mot, chaque verset, quelque machin, une petite note, et puis on a la marge. Ah là, certains rajoutent ci, ah là, certains ont enlevé ça, ah là, certains ont mis les mots dans l'autre sens, ah là, il manque une lettre, enfin, il y a tout ce que... Ça, c'est un résumé, hein. Normalement, ça doit sûrement faire un énorme gros volume. Bref, tout cela fait que les manuscrits, enfin, plutôt les Bibles qu'on a en français, ben, ce n'est pas l'original. Quelques exemples pour illustrer ce que je veux exprimer par cela. Si vous avez une traduction ancienne de la Bible, genre traduction Darby, qui date de 1895, ou Louis II, qui date de 1910, par exemple, ou alors la traduction œcuménique de la Bible, si vous lisez le passage... Par exemple, après la transfiguration, l'épisode où les disciples n'ont pas pu guérir un enfant sous l'emprise d'un démon. C'est vers la fin de l'évangile de Matthieu, vous aurez, j'ai ici, Matthieu 17, 19. Alors, les disciples vinrent demander à Jésus en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon nous-mêmes ?»« C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. »« Amen, je vous le dis, en effet, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là. » Et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Relisez ce passage dans les traductions plus récentes, et vous verrez que le verset 21 est soit entrecroché, pour dire qu'il n'existe pas dans les meilleurs manuscrits. C'est le cas de la nouvelle édition de Genève 1979, dans la traduction à la Colombe, dans la seconde 21. Soit il n'y a carrément pas de verset 21, comme dans la nouvelle Bible seconde. Ou dans la Bible Sommer, ou dans la Bible en français courant. Les spécialistes s'accordent en effet désormais à dire que ce verset n'est pas authentique. Il est selon toute vraisemblance un rajout tardif, sous l'influence de la traduction faisant la promotion du jeûne. Ça ne simplifie pas la vie en tant que chrétien, disons ça. Si je ne peux pas faire confiance à ce que j'ai dans devant moi. Le parallèle dans Marc 9, verset 28-29, quand ils furent rentrés à la maison, ses disciples, en privé, se mirent à lui demander « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Et le jeûne est aussi reconnu comme un rajout tardif sous l'influence de la tradition. La preuve, la Louis II l'a déjà plus. Et dans quasiment toutes les autres, il n'apparaît plus. Acte 10, 30. Corneille répondit : « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. » Ça, c'est la seconde 21 qui met entre crochets ce qui est en rouge. Le « je jeûnais » est reconnu comme un rajout tardif sous l'influence de la tradition. 1 Corinthiens 7,5. « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. » Même constat concernant les mots « au jeûne » et, qui sont des rajouts tardifs. Ça ne nous facilite pas la vie, tout ça. Hein, mais ce sont des réalités qu'il nous faut connaître pour ne pas qu'on se construise une théologie ou des pratiques sur des bases instables, des fois. On a assurément besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre le texte biblique et même pour s'assurer de ce qu'est le texte biblique. Et ça peut passer par les spécialistes que Dieu a permis qu'il y ait, la technologie aussi, avec confiance dans le travail qu'ils font, aussi vigilance un petit peu, et en tout cas humilité. J'espère que je ne vous ai pas perdu, je vous fais peur avec ça, mais c'est des choses qu'on doit savoir. Voilà. La tradition de l'Église au fil des siècles a rajouté des choses dans la Bible, qui ne sont pas a priori. Bref, donc pas tant de références non plus à la pratique du jeûne dans le Nouveau Testament. Et si on enlève ces versets très incertains, il reste, sauf erreur de ma part, seulement 14 versets dans les évangiles. Et on les a tous déjà lus ce matin, sauf un, qu'on abordera la prochaine fois. Et 6 autres dans le reste du Nouveau Testament seulement. 4 dans le livre des Actes, 2 dans la lettre aux Corinthiens. C'est tout. Aucun des commandements, mais comme dans l'Ancien Testament, il y a quelques belles références authentiques de pratique du jeûne. Des exemples positifs, individuels ou en Église. Et on reviendra là-dessus donc, dans 3 semaines. Désolé pour ceux qui ne seront pas là. Peut-être que ça ne vous intéresse pas non plus. Pour voir en particulier voilà, en quoi cela nous concerne et qu'est-ce qu'on devrait en déduire, s'il y a quelque chose à en déduire personnellement ou en Église. Aujourd'hui, on a plutôt vu les mises en garde et les côtés négatifs. J'espère que ça ne vous a pas découragé. La prochaine fois, on verra, j'espère, plus le positif et l'encouragement. Patience, patience. D'ici là, que vous jeûniez ou déjeuniez, selon votre conviction, et qu'en tout cas, Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous invite à prier. Seigneur, on est un peu perdu. Hein. C'est vrai que quand on ouvre la Bible, dans nos traductions en français, on s'attend à ce que tout le texte soit exact. Et c'est un peu plus complexe que ça. Et en tout cas, on veut regarder à toi, demander que par ton Saint-Esprit, tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu nous montres réellement ce qui vient de toi et ce qui a pu être rajout de la tradition humaine. Pas facile, pas facile. En tout cas, dans cette réflexion par rapport aux jeunes, oui, nous demandons de nous montrer, Seigneur, de nous montrer ta volonté, de nous aider à comprendre ce qu'il faut en apprendre ou ce qu'on peut laisser de côté. En regardant les exemples du passé, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'exemple de Jésus. Et en tout cas, aide-nous, Seigneur, pour cette pratique-là, comme pour n'importe quelle autre pratique, à le faire avec sincérité de cœur, à le faire non pas comme si on faisait quelque chose de méritoire qui nécessairement ferait que tu nous approuves ou que tu répondrais à nos prières ou à nos demandes. Tout ce que tu accordes est par grâce, Seigneur, que nous ne l'oublions pas. Merci pour ces mises en garde, en tout cas, qui sont dans ta parole. Et c'est vrai que, humainement, on peut facilement rentrer dans des traditions, dans des pratiques, dans des faux-semblants, dans de l'hypocrisie, consciemment ou même des fois inconsciemment. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la sainteté, à grandir dans la consécration, à grandir dans la simplicité de cette relation sans masque avec toi. Toi, tu nous connais mieux que quiconque et devant toi, on ne peut pas se déguiser, on ne peut pas se cacher devant quoi que ce soit, on peut des fois le faire vers les autres, mais pas vers toi. Aide-nous à être authentiques, autant avec toi qu'avec les autres, Seigneur. C'est aussi, je pense, ça le projet de l'Église que tu as voulu, que nous soyons vrais, les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Merci de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton aide pour cela et nous avons certainement chacun tous besoin de ton aide pour cela aussi. Merci en tout cas pour ta parole que tu nous as donnée. Si sur certaines choses, effectivement, il y a des incertitudes, l'essentiel, il n'y a pas d'incertitude. Le message est clair, le message du salut en Christ, le message de qui tu es, toi le Dieu trinitaire. Donne-nous déjà de bien nous fonder dans ces essentiels, Seigneur. Et après, dans le plus secondaire, effectivement, qu'on puisse grandir dans une saine et juste compréhension de ce que tu veux pour nous et de ta parole. À toi toute la gloire, en tout cas, Seigneur. Et garde-nous cette semaine encore, comme on l'a évoqué aujourd'hui, prosternés devant toi en adoration, non pas à ce que notre ego lève la tête, mais toujours effectivement à vouloir te suivre, Seigneur, à vouloir t'écouter, à vouloir te ressembler. Et à toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.